Bon, ben bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous visitent. J'imagine qu'il y a peut-être quelques visiteurs qui sont en vacances en Alsace. Donc, on vous souhaite vraiment la bienvenue au nom de l'EPI. On va se lever tous ensemble si vous voulez bien. On va commencer par chanter l'œuvre parfaite de Jésus-Christ qui a tout accompli parfaitement pour permettre qu'on ait la liberté de le louer. Il nous justifie. Sa grâce est suffisante pour couvrir nos fautes et qu'on puisse s'adresser à lui en toute liberté ce matin. Seigneur, ce qu'il dit, il l'accomplit. Quand on parle de ses promesses, c'est pas juste des paroles en l'air. Ce qu'il dit, il a promis. Il y a 2000 ans, il y avait des promesses qui annonçaient, même avant sa venue. Il est venu effectivement pour nous affranchir. On va le chanter.
Chercher à mériter ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu. Par mes erreurs et par mes torts. Mais tu n'es pas un homme pour oublier. Ton alliance demeure à jamais, car en toi je suis aimé. Et nul ne peut le condamner.
On peut chanter, il est fidèle à ses promesses.
Oui, toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Devant moi les murs se dressent et que la peur vient m'accabler. Devant la mer, dans la détresse, la route vient se fermer.
Tu peux dire dans cette situation,
mais tu ouvres un chemin dans le désert. Tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés. Non, rien ne pourra.
Que Dieu agisse dans nos vies, on va encore le proclamer.
Oh oui, je crois, oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras.
C'est pas compliqué.
Oh oui, je crois, oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. C'est que tu dis,
on reprend ça.
Oh oui, je crois, oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, c'est que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Change pas, tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, toujours là pour moi, tu ne changes pas.
Célébrer notre Dieu l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Nos voix s'élèvent, nos chants d'acclamation, de proclamation pour proclamer encore ta bonté, ta fidélité. Seigneur, on est imméritant devant toi. Et pourtant, tu nous as comblés de tes dons, de tes bienfaits. En toutes choses, tu as pourvu. Seigneur, on veut se souvenir. Se souvenir que nous ne manquons de rien. Qu'en toi, nous avons tout pleinement. Que toutes choses, tu les as posées, placées, précisément et avec perfection, Seigneur. Ton Église t'élève, te loue, t'adore ce matin. Notre âme te bénit, ô Éternel. Et là où il y a des manquements dans notre quotidien, où nos lèvres te bénissent mais nos actes ne suivent pas, Seigneur, viens à notre secours. Pardonne-nous quand il y a un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Seigneur, ce matin, c'est le moment de tout redéposer à la croix, de venir vers toi, dire « Seigneur, agis, Saint-Esprit, vraiment, viens à mon secours » pour que mes lèvres puissent dire « Ô mon âme, bénis l'Éternel en toutes circonstances », mais aussi que mes actes, que mon cœur, mes motivations, mes intentions, tout mon être entier soit tourné vers toi. Seigneur, c'est le cri de notre âme ce matin. Tout pour toi, pour ton adoration, que nos vies soient des sacrifices vivants. En hommage à ta gloire, à ta louange, Seigneur. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Parole pour te louer.
Comptons ensemble ses bienfaits et remémorons-les-nous.
Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Et à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer.
Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'abats-tu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'abats-tu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme.
On peut redire ça ensemble.
Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel.
Je n'oublie ça réjouit notre cœur.
Et à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer.
Loue-le là où tu es. Pense à ses bienfaits, tout ce qu'il a fait.
Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Et à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'abats-tu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme,
de la tempête.
Il est là,
je sais qu'il est là à mes côtés quand tout va mal.
Oh mon âme, pourquoi t'as battu?
Et je me souviens que même au milieu de la tempête,
il est là.
Moi je le
adoration. Seigneur, si en venant nos cœurs n'étaient pas disposés, on veut revenir à toi ce matin. On veut comprendre qu'il n'y a rien au monde plus précieux que toi, que ta présence. Fais-nous la grâce encore ce matin de te révéler à nous. Saint-Esprit, apprends-nous à te louer. Apprends-nous à t'adorer. Apprends-nous à t'aimer. Je veux aimer mon Dieu plus que toute autre chose. Aimer mon Dieu, mon prochain. Je veux faire ta volonté, Seigneur.
Une parole pour quelqu'un que je voudrais soumettre, évidemment. La Bible dit, poser un diagnostic sur la prophétie, juste... On peut rester debout, on va continuer à louer le Seigneur, hein, pas besoin, vous inquiétez pas, on va repartir là. Mais juste là, je voudrais soumettre une pensée à quelqu'un et en demandant au Seigneur, c'était comme quelqu'un qui marche depuis plusieurs années avec Dieu. Quelqu'un qui, ça se compte maintenant en décennies, tes marches, ta marche avec Dieu. Et t'arrives à un moment de ta vie où il y a comme une petite musique dans tes pensées qui est là, mais Seigneur, tous ces sacrifices... Tous ces sacrifices, tous ces choix, toutes ces restrictions, toutes ces choses, tout ce que j'ai enduré, toutes ces décisions de vie, tout ça. Et c'est comme si t'accumulais. Et tu dis, mais Seigneur, mais pourquoi tout ça? Tu perds le sens de toutes ces décennies de vie chrétienne. T'es en train d'être écrasé par le poids de tes œuvres chrétiennes. Et le Seigneur te dit, mais le sens, c'est que toi et moi, on a une relation personnelle ensemble. Pas une relation avec tes œuvres, mais une relation avec moi. Et le Seigneur, c'est comme si il y a ses mains qui viennent et tout ce tas d'œuvres qui est là, c'est comme s'il les mettait de côté et dit, mais moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est ton cœur connecté à mon cœur. C'est comme si le Seigneur voulait encourager quelqu'un à dire, mais attention, dans tes combats, dans les pensées, de dire tout ça, tout ce que j'ai. Attention, confonds pas les œuvres et ma relation avec moi. Le Seigneur veut libérer quelqu'un ce matin du poids des fardeaux, des œuvres chrétiennes, en pensant que c'est ce qui va te justifier. Alors que tu peux pas te justifier, même après 40, 30, 20 ans de vie chrétienne, tu peux pas te justifier. Il n'y a que Jésus qui peut te justifier. Ce matin, il voudrait décharger quelqu'un. Je le vois littéralement en train de décharger quelqu'un de lourds fardeaux sur ses épaules. Parce que tu as attribué à tes œuvres des réponses aux prières. Et tu as perdu de vue que tout ce que tu as fait, ce n'était pas juste pour t'accomplir ou juste pour faire. Tout ce que tu as vécu, c'est parce que Jésus est ton premier amour. Jésus est celui qui t'a aimé le premier, tu l'as aimé en retour. Et le Seigneur voudrait dépoussiérer ta vie chrétienne et restaurer. T'aider à discerner, à faire la part des choses. Parce que l'Éternel veut faire de toi un enfant de Dieu libre, joyeux, dans la paix, qui fait non pas par obligation, mais qui fait par amour. Alors Seigneur, tout simplement, je soumets ça à quelqu'un. Il veut t'inviter à revenir à ton premier amour. À ton premier amour. Seigneur, nous te prions peut-être pour quelqu'un, une personne ou plusieurs qui ont perdu de vue leur premier amour. Qui se sont laissés avoir par un flot incessant d'œuvres pour essayer de te plaire, alors qu'ils avaient perdu de vue que c'est impossible de te plaire par nos œuvres. Mais c'est notre foi, notre confiance en toi qui est rémunérée, Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois tous les fardeaux qui sont sur les épaules de quelqu'un. Nous te prions que maintenant cette personne soit complètement libre, qu'elle soit légère et qu'elle reprenne plaisir à dire « J'aime Dieu, Dieu m'aime. J'aime la vie chrétienne que Dieu m'a donnée. » Je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses, dans ta grâce, apaiser quelqu'un, soulager quelqu'un, libérer quelqu'un. Et qu'enfin, elle puisse prier de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits à lui. Amen. Amen. On peut peut-être reprendre « Oh mon âme, bénis l'Éternel » et peut-être des personnes qui étaient enfermées dans une armure d'œuvre, qu'ils puissent maintenant être complètement libérés, laisser cette armure de Saül là, et de juste se recouvrir de la joie de l'Éternel qui est ta force ce matin. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Laisse le Seigneur te recouvrir de sa paix, son joug est léger. Oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel, oh mon âme. Juste une dernière fois, comme une déclaration à notre âme, une dernière fois ensemble. Oh mon âme.
Up. En t'offrant toi-même
encore, je t'aime. Notre roi des rois, notre sauveur, notre bien-aimé.
Avant de s'asseoir, peut-être, si vous n'avez pas salué la personne à votre droite, à votre gauche, ce serait l'occasion de lui souhaiter une bienvenue à l'EPI. Voilà, qu'on puisse se saluer les uns les autres. N'oubliez pas les plus petits au milieu de nous, ils sont super importants pour nous. Donc si vous voyez des jeunes, des ados, des enfants, souhaitez-leur la bienvenue, n'oubliez pas, hein. Les plus petits au milieu de nous. Voilà, bienvenue. Bienvenue à ce temps de célébration avec l'église de l'EPI. On est très heureux de s'accueillir les uns les autres, de se rassembler, de prendre un temps dans la semaine où ensemble, on veut louer Dieu ensemble, on veut célébrer qui il est ensemble, on veut se mettre à l'écoute aussi d'un enseignement sur la Bible. C'est complémentaire à toutes les rencontres qu'on peut avoir en semaine dans les groupes de vie. Les groupes de vie se déclinent en différentes expressions. Vous avez des groupes de maison, vous avez des groupes par intérêt au niveau de l'âge, vous avez des groupes aussi au niveau de la langue. Tout sert le propos de connaître Jésus, de partager son amour. Donc on est très heureux de s'accueillir ici. Ici ce matin, on fait un gros coucou à toutes les personnes en ligne de l'EPI qui sont en congé dans cette période estivale pour juillet. Il y en a certains qui écoutent en retransmission. Est-ce qu'on peut leur faire un petit coucou à tous les juilletistes? Est-ce qu'on peut juste voilà, un petit coucou aux juilletistes. Des fois, on reçoit des petits messages qui disent « Ah ouais, j'étais en vacances, j'ai regardé tel message, j'étais là ». Donc, on pense à vous, ressourcez-vous, reposez-vous et que cette période de vacances pour les papas et les mamans, je sais que c'est un vrai défi pour nous parce qu'on doit se ressourcer tout en ressourçant nos enfants en vacances. Qui connaît cette période-là ? Bah, que Dieu vous renouvelle, vous donne des forces nouvelles pour que les enfants aussi puissent être bénis. Et puis on s'encourage évidemment à tout ce qui est colonie, camp, que vraiment ça puisse être des temps pour nos enfants. Il y a plusieurs choses qui peuvent être proposées. Si jamais vous avez des questions sur les colonies, les camps, il y a un gros camp scout qui arrive. Il y a plein d'occasions de pouvoir vivre... Pardon ? Oui, mais je veux dire, si jamais on veut s'y intéresser ou quoi, sachez que pendant les étés, pendant les vacances, il peut y avoir des colos ou autres. Donc pour inscrire les enfants, peut-être pas là tout de suite demain, mais voilà, dans une culture d'inviter vos enfants à vivre des choses, c'est toujours bon de pouvoir les sensibiliser à ça. C'est un grand privilège pour moi ce matin de pouvoir accueillir quelqu'un qu'on connaît bien à la maison, hein, c'est Michel Schneider. Hein ? Est-ce qu'on peut encourager Michel qui va nous apporter la parole ? Michel est en retraite non pratiquée. C'est bien, c'est une belle expression ça. Pour donner un petit peu d'update, de mise à jour sur ce que fait Michel en ce moment, et parce que je suis tellement béni qu'il soit encore là à servir et l'Église, mais d'une manière plus élargie, l'Église, on va dire au niveau régional, Michel exerce aujourd'hui son leadership auprès de la pastorale du Grand Est. C'est des dizaines d'églises, des dizaines de pasteurs qui se réunissent régulièrement, mais aussi qui exercent leur ministère dans différentes régions du Grand Est. Et Michel fédère, Michel encourage, Michel ressource avec toute une équipe, évidemment. Mais c'est tellement bon, je suis très heureux qu'il puisse apporter sa touche schneiderienne. Octobre. Donc Michel fédère aussi toutes les églises du Conseil national des évangéliques de France. C'est vraiment pour qu'on ait cette unité dans le royaume de Dieu, qu'on puisse travailler et mettre en commun les... Il n'y a pas d'Evelyne Schneider non plus. Mais Michel vient aussi aider des églises qui passent parfois par des moments de crise, des moments difficiles, en interne ou alors par rapport à différents sujets. Et après plus de 40 ans de ministère pastoral à prendre soin d'une église, il continue à prendre soin d'églises pour qu'elles aillent mieux. Pour que les collègues pasteurs, les leaders sur place, pour que l'Église retrouve sens, l'Église retrouve de la vitalité. Et je voulais vraiment prendre le temps d'honorer ce ministère-là, parce que beaucoup auraient pu dire « Bon, maintenant c'est bon, on est arrivé là, j'ai tout donné ». Mais voilà, je voudrais vraiment honorer Michel, honorer Evelyne et honorer tous mes frères et mes sœurs ici à l'EPI qui continuent à donner de leur temps pour le royaume de Dieu. C'est vraiment une bénédiction. Alors juste, est-ce qu'on peut ce matin prier pour Michel et demander au Seigneur vraiment de le bénir, de le renouveler au milieu de nous pour les quelques mois encore qu'il a à donner? Parce que je pense qu'à un moment donné, Evelyne, elle va quand même dire à Michel, « Oh, langsomme Michel, hein, doucement, doucement. Hein, » hein. On peut se lever ensemble, on va prier. Michel, tu peux venir. C'est pas un ministère où il faut passer à côté. Il faut vraiment soutenir nos frères, nos sœurs qui s'investissent comme ça pour la bonne santé du royaume de Dieu. Une église en bonne santé, c'est un quartier, une ville qui peut être au bénéfice de l'évangile. Alors on veut prendre le temps ce matin de te bénir, Michel, de bénir Evelyne aussi, et que le nom de Jésus dans votre vie continue son œuvre et ainsi que dans votre famille. Seigneur, on te remercie pour Michel. On te remercie pour Evelyne. On te remercie pour ce couple. Ça fait tant d'années qu'ils te servent. Il y a eu les hauts, il y a eu les bas. Il y a eu des bas, et puis il y a eu des hauts aussi. Seigneur, merci pour ta fidélité dans leur vie. Tu vois aujourd'hui ton église, le royaume de Dieu, tous les enjeux, tous les défis, avec des églises en bonne santé, des églises qui ont besoin d'être ressourcées, d'être encouragées, d'être pensées, d'être guéries. Tu vois l'importance d'être une église unie dans des temps où tout veut nous diviser, Seigneur. Alors merci pour des ministères comme Michel et Evelyne, qui veulent unir l'église, qui veulent l'encourager, qui veulent aider chaque chrétien, ne pas être aigri, ne pas être comme cela, en perte de sens ou quoi, mais vraiment d'être encouragé, d'être béni, d'être comme souvent Michel nous l'a dit, d'être libéré dans ce que Dieu leur a donné. Alors à notre tour, on veut aussi prendre le temps ce matin, avant qu'il nous apporte la parole, de bénir Michel, de bénir Evelyne, de bénir les enfants et les petits-enfants, dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni, Michel.
Merci beaucoup, Mathieu. Merci à tous. Heureux de vous retrouver ce matin. J'espère que cette saison estivale se passe au mieux. On salue aussi tous ceux qui sont en ligne. On a la joie d'accueillir aussi ce matin au milieu de nous Jean-Noël et Odette Forchelet. Ils ont été pendant de nombreuses années missionnaires à Madagascar. Soyez les... Peut-être que vous pourriez vous lever, comme ça tout le monde peut vous voir. Voilà, on les salue chaleureusement. Ils ont leurs deux garçons à Gospel House, à Kale, et Peter est le pasteur de l'église Gospel House, à Kale, qui est juste à deux pas d'ici, de l'autre côté de la frontière de Strasbourg. Le message de ce matin, c'est Joseph au cœur de la tentation. Et avant de parler de Joseph et de ses épreuves, de ses tests par lesquels il a passé, et la manière dont Dieu s'est servi de lui pour bénir son environnement, on va lire dans Genèse au chapitre 39, les versets 1 jusqu'au verset 23. La lecture est un peu longue, mais elle va nous aider à cerner le personnage, la situation, et nous apporter l'éclairage sur le contexte. Genèse au chapitre 39. Quand Joseph arriva en Égypte, il fut acheté aux Ismaélites qu'il avait conduits là-bas par un haut fonctionnaire du Pharaon nommé Potiphar, qui était le commandant de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, Joseph obtint la faveur de son maître qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait dans sa maison comme au champ. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien sauf de ses repas. Joseph était un très bel homme, ayant un beau visage, de sorte que la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit « Viens coucher avec moi ». Mais il s'y refusa et lui dit « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment commettrai-je un acte aussi abominable et pécherai-je contre Dieu ? » Jour après jour, elle revenait à la charge, mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher avec elle et d'être avec elle. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors, elle l'agrippa par son vêtement en disant « Viens coucher avec moi ». Mais il s'enfuit, lui abandonnant son vêtement entre les mains, et s'élança dehors. Quand elle vit qu'il s'était enfui dehors en lui laissant son vêtement entre les mains, elle se mit à crier pour appeler ses domestiques, puis elle leur dit « Voyez cela, on nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié très fort. Quand il a entendu que je poussais des cris pour appeler à l'aide, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Elle garda le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'au retour de son mari à la maison. Alors elle lui raconta la même histoire. « L'esclave hébreu que tu nous as amené, dit-elle, est venu vers moi pour se jouer de moi. Mais quand je me suis mise à crier et que j'ai appelé au secours, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Quand le maître de Joseph, entendit le récit de sa femme qui lui disait « Voilà comment ton serviteur s'est comporté envers moi », il se mit dans une grande colère. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi, Joseph demeura dans la prison. Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Celui-ci lui confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qu'on y faisait. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui passait par la main de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Dans la première partie du livre de la Genèse, l'action de Dieu est très visible et très audible. Il crée le monde, il parle à Noé, à Abraham, à Isaac, à Jacob, et il se manifeste par des miracles, des visions, des voix, des apparitions. Et à la fin du livre de la Genèse, notamment ici dans cette histoire que nous venons de lire, il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de visions, il n'y a plus de voix, il n'y a plus d'apparitions. Et on découvre qu'avec Dieu, le silence n'est pas synonyme d'absence. Souvent, lorsque Dieu se fait discret, c'est qu'il travaille en profondeur. Il travaille en profondeur. Joseph a été éprouvé, il a été testé, il a été tenté. Le mot « tentation », dans l'original ici, « pairesmos », a un double sens. Il peut désigner une épreuve, un examen, un test ou une tentation. L'épreuve au sens d'examen ou de test vise notre développement, notre maturité spirituelle, notre croissance. Et la tentation, c'est l'inverse. La tentation vise la chute. La tentation est un appel, une sollicitation au mal, une incitation à nous faire sortir de la volonté de Dieu. Alors, ce n'est jamais Dieu qui nous tente au sens de nous piéger pour nous faire chuter. Bien sûr, Jacques 1 au verset 13 dira que personne devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est le tentateur qui nous tente. Il est même prévisible. Parce qu'il s'appuie sur nos fragilités, sur nos failles, sur nos faiblesses. Et s'il peut tenter, c'est qu'il trouve en nous de la complicité. La source de la tentation, bien sûr, elle se trouve en nous. Et Jacques dira encore, lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous, qui nous attirent et nous séduisent. Par exemple, un manque d'affection peut devenir une source de tentation, un besoin de reconnaissance, ou bien la curiosité peut être une porte ouverte vers une tentation. Nos craintes, insécurité, la déception peut devenir une source de tentation. Est-ce qu'on peut éviter la tentation? Est-ce qu'on peut éviter d'être tenté? Non. Chrétiens comme non-chrétiens, nous sommes tous tentés. C'est une facette de notre humanité. Même Jésus a été tenté. Mais la tentation n'a trouvé chez lui aucune prise, aucune complicité. Il n'a jamais péché, nous dira Hébreux au chapitre 4. Alors, dans la lecture qu'on vient de faire à l'instant, Joseph fait face à trois tentations. Et c'est de cela dont j'aimerais maintenant m'entretenir avec vous. Tentation par rapport au pouvoir, tentation par rapport à la relation sexuelle, et une tentation qui est sans doute l'une des plus difficiles, c'est l'injustice. Parlons d'abord du pouvoir. Joseph a été vendu par ses frères comme esclave. Il est arrivé en Égypte. Il a été acheté par un officier, chef de la sécurité, la garde royale, on pourrait dire aujourd'hui chef de la sécurité. Et c'est un homme influent, il s'appelle Potiphar, qui lui délègue le pouvoir pour gérer tous ses biens. Et la question que je me pose, c'est que va-t-il faire avec ce pouvoir? Cette histoire met en évidence deux façons de gérer le pouvoir. D'abord, la femme de Potiphar. Au verset 7 et au verset 12, elle va utiliser son pouvoir en direction de la manipulation. Verset 7 et verset 12, « Viens coucher avec moi. » Alors ici, dans notre version française, c'est très soft. Je vous la fais dans l'original. L'hébreu est beaucoup plus cru. Il y a deux mots impératifs. C'est un commandement. Et voilà ce qu'elle dit. « Sexe maintenant. » C'est violent. C'est violent. Ah oui, il est question de sexe, bien sûr, mais en réalité, il s'agit d'abord d'une question de pouvoir. Elle se sert de son pouvoir pour arriver à ses fins. Et son cœur, finalement, a été corrompu par le pouvoir, parce que c'est une manipulatrice de première, prête à trahir son mari pour obtenir ce qu'elle veut. En face, il y a Joseph. Il a également reçu le pouvoir. En fait, c'est un véritable chef d'entreprise. Le mot français ici, c'est le mot intendant, mais c'est beaucoup plus qu'un intendant. C'est un véritable chef d'entreprise. Il gère le personnel, il gère les biens, de l'argent, les cultures, le bétail. C'est un entrepreneur. Il a le pouvoir. Et que fait-il de son pouvoir ? Verset 5, à partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait. Il utilise son pouvoir pour bénir. Joseph est un homme d'affaires, il est à la tête d'une entreprise florissante et que Dieu bénisse tous les hommes d'affaires, que Dieu bénisse tous les chefs d'entreprise. Ils ont souvent beaucoup plus de sagesse que la plupart des chrétiens. Et on a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Dieu bénisse les hommes d'affaires qui utilisent leurs ressources et leur pouvoir pour bénir. Quelques années plus tard, il est à la tête du gouvernement pour bénir et sauver sa famille, l'Égypte, et tous les pays environnants. Donc Joseph s'est servi du pouvoir pour faire du bien. Il ne s'est pas laissé corrompre, contrairement à la femme de Potiphar. Saint Augustin, un des pères de l'Église, 5e siècle, a écrit un livre en plusieurs volumes, sur plusieurs années, un livre qui s'appelle « La cité de Dieu ». Sa pensée est la suivante, c'est que dans chaque cité humaine, il y a deux cités, deux mondes. Une cité céleste et une cité terrestre. Une cité de Dieu et une cité des hommes. Ce qui motive les citoyens du ciel, c'est l'amour pour Dieu. Et ce qui motive les citoyens de la terre, c'est l'amour d'eux-mêmes. Augustin montre que ce qui différencie ces deux types de citoyens, c'est leur rapport au pouvoir. Et il dit « les meilleurs citoyens, ce sont ceux de la cité de Dieu ». Parce que dans toutes les sphères de la société, dans la santé, le commerce, le gouvernement, l'éducation, l'administration, les affaires, bref, toutes les sphères de la société, même les arts, ils se servent du pouvoir pour bénir les autres et pas eux-mêmes. Alors Joseph n'est pas tombé dans le piège de la corruption à cause du pouvoir. On a vu tellement, et vous en connaissez des histoires, dès que quelqu'un a un petit peu de pouvoir, ça y est, ça lui monte à la tête et il fait n'importe quoi. En pensant à ce message ce matin, je pensais à mon service militaire. Je fais partie d'une génération qui a fait le service militaire. J'étais appelé. Et dans la chambre, on était tous deuxième classe. Puis un jour, un de nos copains s'est vu confier un grade de caporal. Et à partir du moment où il était caporal, c'était plus le même. Il nous en a fait baver. On connaît tous des situations de ce type. Le pouvoir peut nous corrompre. Première tentation, donc, celle du pouvoir. Deuxième tentation, c'est donc une tentation d'ordre sexuel. Lorsque la femme de Potiphar lui demande de coucher avec elle, oui, il refuse. Au verset 8, il s'y refusa et lui dit, « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison, il m'a confié tous ses biens. » Au verset 9, lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment commettrai-je un acte aussi abominable et pécherai-je contre Dieu ? Il y a une clé ici. Il refuse, pourquoi ? Parce qu'elle est mariée. Et d'un point de vue biblique, c'est un grand mal, parce qu'elle est mariée avec Potiphar. Mais deuxièmement, elle n'est pas mariée avec Joseph. Et l'apôtre Paul va nous fournir un éclairage sur cette question dans 1 Corinthiens 6 au verset 16. Il dira, ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'unit, alors il prend l'exemple d'une prostituée ici parce que dans la ville il y avait 1 000 000 de prostituées et que la ville de Corinthe souffrait et les chrétiens avaient du mal avec ces questions-là. Et donc il prend cet exemple. Ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle, car il est écrit « les deux ne feront plus qu'un ». Il fait allusion à Genèse au chapitre 2 et au verset 24. Et puis aussi une petite allusion à Joseph ici au verset 18. C'est pourquoi fuyez les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas intégralement son corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Paul nous dit que vivre une relation sexuelle, c'est devenir une seule chair. Elle implique l'engagement de toute la personne, non seulement le corps. Et dans la pensée biblique, vivre une relation sexuelle, c'est dire à quelqu'un, je t'appartiens entièrement et exclusivement dans tous les aspects de ma vie, légal, social, économique, émotionnel, spirituel. Madame Potiphar n'avait pas cette intention. Elle voulait juste passer un bon moment avec Joseph. Si tu donnes toute ta vie à quelqu'un en le faisant savoir publiquement, devant témoins, puis le symbole des alliances est un symbole très très fort. On est liés l'un à l'autre. Si tu fais cela, tu peux donner ton corps. Mais si tu ne donnes pas ta vie, ne donne pas ton corps. C'est comme si tu disais, je veux tout garder pour moi. Je veux rien te donner. Je m'appartiens. Je ne veux pas t'appartenir. Je ne veux pas m'engager. L'union physique sans engagement, sans l'implication de toute sa vie, est une, on dirait en musique, une dissonance. Ça sonne faux. C'est pas harmonieux. Et c'est la raison pour laquelle Joseph a fui. Alors peut-être que quelqu'un est en train de me dire ce matin, mais Michel, là, tu es en train de nous culpabiliser. C'est pas du tout mon intention, absolument pas. Et dans ce lieu, nous ne sommes pas là pour culpabiliser ou condamner qui que ce soit. Dans nos bureaux, nous accueillons toutes sortes d'hommes et de femmes et toutes sortes de situations. Et notre projet en tant que pasteur, en tant que leader spirituel, c'est d'accompagner, c'est d'encourager et c'est d'aider ceux et celles qui le souhaitent à sortir de leur situation et à se relever de leur situation difficile, douloureuse. J'essaie au contraire de vous faire réfléchir différemment. Je sais bien qu'on est à contre-courant de la pensée populaire. Mais j'essaie d'élargir votre horizon. Comment Joseph a-t-il résisté à la tentation ? Alors les philosophes, les sciences sociales, la pensée moderne, les psys pensent d'une manière générale, hein, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais de manière générale, pensent que la maîtrise de soi est une question de volonté. Mais cette façon de penser pousse les gens à refouler, à étouffer, à retenir, à repousser leurs désirs. Ce n'est pas ce que Joseph a fait. Alors on reste bien dans l'histoire de Joseph. Hein ? Il ne se regarde pas lui-même. Il ne regarde pas à l'intérieur pour repousser ses désirs, il regarde vers l'extérieur, il regarde vers Dieu. Il raisonne avec sa tête et avec son cœur au lieu de laisser parler son corps. Écoutez ce qu'il dit. Comment pécherai-je contre Dieu ? Comment pécherai-je contre Dieu ? Vous le savez bien, quand on aime, on n'a pas envie de faire du mal à celui qu'on aime, à celle qu'on aime. Lorsque le roi David a reconnu sa faute après avoir commis l'adultère avec Bathsheba, 2 Samuel 12, il dira « J'ai péché contre l'Éternel ». Et dans sa confession, dans le psaume 51, il dit « contre toi seul, j'ai péché ». Lorsque le fils prodigue s'est repenti de son mauvais comportement à l'égard de son père, il a dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi ». En réalité, donc, c'est Dieu qui a été le premier offensé. C'est Dieu qui est le premier offensé quand on dérape, comme dirait Anne Burl. La véritable repentance, c'est prendre conscience qu'on a fait mal à Dieu et qu'on l'a offensé. Alors Joseph ne s'appuie pas sur la force de sa volonté pour rester maître de lui. Ce n'est pas en regardant à l'intérieur, en cherchant à puiser sa force en lui-même, qu'il va trouver le moyen de résister. C'est en regardant l'extérieur, c'est en se tournant vers Dieu qu'il va trouver cette force. Comment pourrais-je faire du mal à Dieu ? Comment pourrais-je piétiner sa grâce envers moi ? Comment pourrais-je trahir sa confiance ? Comment pourrais-je mépriser son amitié, insulter sa personne, salir son nom, sa réputation ? En fait, il pense aux conséquences et aux répercussions de sa conduite. Parce que, en fait, c'est l'honneur de Dieu qui est en jeu. Frères et sœurs, nous sommes tous les ambassadeurs de Christ. Nous sommes les représentants du Seigneur. Et nous sommes regardés en tant que tels comme des représentants. Et lorsque notre conduite, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure dans sa prière, n'est pas en adéquation avec notre conduite, lorsque notre conduite n'est pas en adéquation avec ce que nous professons, avec nos paroles, eh bien cela se voit. Et puis on nous dit, c'est ça un chrétien ? C'est ça qu'on t'apprend là, à l'épi ? Et on a tout intérêt à vivre comme un bon, comme une bonne chrétienne, pour être de bons ambassadeurs. Quelle image offrons-nous à notre entourage ? Un de nos voisins disait il y a quelque temps, il me parlait, il me disait, mais Michel, depuis que mon épouse fréquente ton épouse, son cœur s'est ramolli. Et quelquefois, les voisins ont des termes, c'est original. Depuis que mon épouse fréquente ton épouse, son cœur s'est ramolli. Alors, il avait l'air de dire, ouais. Continue comme ça, c'est bien. Que le Seigneur nous aide à être de bons et de fidèles témoins. En fait, son attachement à Dieu est plus fort que ses désirs. Son amour pour Dieu, le premier amour dont on a parlé tout à l'heure. Et merci Magali pour ces chants qui attirent notre attention vers l'essentiel, la priorité des priorités, notre premier amour. Ce premier amour remet toutes les autres aspirations à leur juste place. Il y a comme un réalignement chez lui parce que c'est d'abord Dieu et le reste vient ensuite. Essayez voir d'enlever un os à un chien. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Ça ne marche pas. Vous allez vous faire mordre. Par contre, si vous lui mettez une bonne côtelette juste à côté, lui, il va faire la différence. Voyez ? Il va faire la différence. Ce qui est vrai dans le domaine des relations sexuelles, si dans tous les autres domaines et pour toutes les autres tentations. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile ce matin. Nous le savons bien, nous restons des hommes, des femmes, tributaires de notre condition humaine. Ce n'est pas évident, ce n'est pas toujours facile. Mais en tout cas, c'est une piste, c'est une clé ici que nous donne Joseph et à laquelle nous voulons être sensibles. La Bible dira aussi, portez les fardeaux les uns des autres, dans Galates 6. Donc Joseph est une figure d'un autre Joseph beaucoup plus grand, Jésus. Il est venu du ciel. Il a quitté la gloire, nous dit Jean 17. Il était l'égal de Dieu, nous dit Philippiens chapitre 2. Il a quitté son trône, il a quitté son palais, son pouvoir, sa gloire. Ésaïe 53 nous dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour retenir notre attention. Il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Joseph lui a tout perdu jusqu'à sa réputation. Tout comme Jésus. Il y a des similitudes entre les deux. Et bien que Joseph n'ait rien fait de mal, il a été enfermé comme un criminel. Lui qui n'était pas coupable a été placé parmi les coupables, tout comme Jésus, traité comme un coupable. Ce qui fait dire à Loren Cunningham, le fondateur de Jeunesse en Mission, le plus innocent de tous est devenu coupable pour que le plus coupable de tous puisse devenir innocent. C'est ce que Jésus fait pour nous. Jésus est allé jusqu'à la croix en affrontant toutes sortes de tentations. Hébreux au chapitre 4, verset 15 dit, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, sans jamais pécher. Alors pourquoi a-t-il surmonté toutes les tentations? Pourquoi et pour qui a-t-il enduré les pires souffrances? Pour toi et pour moi. C'est pour nous qu'il a enduré et surmonté toutes les tentations. Hébreux au chapitre 12, au verset 1. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courant avec endurance. Remarquez le nombre de fois où ce mot revient, endurance, endurer. Avec endurance, l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Quelle parole ! Quand tu réalises que tu es aimé de toute éternité, ce que dit le début de la lettre aux Éphésiens, avant même la création du monde, quand tu réalises que tu es la raison de sa venue sur terre, quand tu réalises qu'il est mort et ressuscité pour te pardonner, te réconcilier avec Dieu, et que son plus grand projet était de t'avoir et de m'avoir avec lui pour l'éternité, alors il devient ta raison de vivre, il devient ta priorité, il devient ton premier amour. Frères et sœurs, nous avons besoin de quelqu'un qui nous dise « Je t'aime et je me donne entièrement à toi ». C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Alors vous dites peut-être ce matin, si seulement j'étais marié, je n'aurais pas de tentation. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. Si vous ne vivez pas pour une cause plus grande, pour un amour au-dessus de tous les autres, vous serez toujours frustré, quand bien même vous seriez les plus heureux dans votre mariage. Tentation du pouvoir, tentation de la relation sexuelle, et pour finir, troisième tentation, l'injustice. Il me semble que l'injustice est l'une des épreuves les plus blessantes et les plus cruelles qui soient. Être traité injustement, être accusé à tort, pourrait devenir un piège pour succomber à la tentation. Alors Joseph affronte des assauts répétés et sur la durée, au verset 10, « Jour après jour, Madame Potiphar revenait à la charge. » Mais Joseph ne voulait pas l'écouter, il refusait d'être avec elle. Alors s'éloigner d'un lieu de tentation, ce n'est pas de la lâcheté, mais c'est de la sagesse, c'est de la prudence. Il se protège. Un proverbe qui dit « Pour ne pas te faire piquer, éloigne-toi des guêpes. » 1 Pierre 5, au verset 8, « Soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Joseph use de sagesse, il est prudent et il se protège. 1 Jean 5, verset 18, « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Donc, Joseph a un comportement tout à fait exemplaire. Il fournit un travail remarquable, il a de la réussite, Dieu est avec lui, il est irréprochable, il bénit tout son entourage, et pourtant, il est traité comme un criminel. Terrible. Une totale injustice. Alors là, comment est-ce qu'il faut comprendre tout cela? Les épreuves, les tests, les examens que nous passons, vous savez qu'il y a des tests. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il nous met aussi à l'épreuve pour que nous puissions voir qui nous sommes réellement, pour mettre en évidence nos motivations, pour mettre en évidence nos intentions, nos failles parfois, pour que nous puissions travailler avec lui et collaborer et participer à notre progrès et devenir de meilleurs chrétiens, de meilleures chrétiennes. Les épreuves et les tests participent donc, et ils sont en crescendo. C'est John Maxwell, un spécialiste du leadership, qui dira « Plus vous vous élevez, et plus le prix sera élevé. » Puisqu'on a des germanophones parmi nous, en allemand on dit « Je höher den Weg, je höher den Preis. » Plus le chemin est élevé, et plus le prix à payer est élevé. Joseph est en train de franchir un seuil. Il est en train d'augmenter sa capacité de pouvoir encaisser. Lorsque Matthieu était jeune pasteur, il y a quelques années, avec nous ici, on a eu de grandes discussions, vous savez, des discussions de fond. Et un jour, il m'a posé la question, c'est quoi le plus difficile dans le ministère, Michel ? Et jusqu'à aujourd'hui, je le ferai la même réponse. Je dirais que le plus difficile dans le ministère pastoral, c'est de pouvoir encaisser. Et donc Dieu permet des tests, des examens, des épreuves pour élargir nos épaules, ou comme dirait Yolande Schwab, pour construire notre solidité intérieure. Et j'accompagne quelques collègues, c'est vrai, et nous travaillons ces questions qui sont tellement fondamentales. Le plus difficile, c'est pas de prêcher. Le plus difficile, c'est de pouvoir encaisser. Et Joseph encaisse une situation après l'autre. Et Dieu est en train de le former. Et c'est ce qui va lui permettre de devenir Premier ministre ou à la tête du gouvernement, peu importe le titre, mais en tout cas, être juste sous l'autorité du Pharaon pour gérer la situation du pays lorsque viendra la famine. Si Madame Potiphar ne l'avait pas accusé à tort, si Joseph n'était pas allé en prison, il n'aurait jamais rencontré les prisonniers du roi, les proches serviteurs du Pharaon. Il ne serait pas devenu le prince d'Égypte. Il n'aurait pas été en mesure de sauver sa famille, de sauver l'Égypte et les nations environnantes de la famine. Joseph est un otage, pour rester dans l'actualité. Vendu comme esclave, loin de son père, loin de sa mère, qu'il a perdu déjà en tant que gamin, loin de sa famille, de son pays, harcelé par une femme, condamné à la prison, dans laquelle il restera plusieurs années. Alors il a certainement été assailli par le doute, par l'incompréhension, la solitude, le désespoir, en se disant « mais qu'est-ce que je fais là ? Et pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ? Et pourquoi tous ces malheurs ? Et qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter un tel traitement ?» Et oui, quand on est traité injustement, vous savez qu'un des pièges, une des tentations, c'est de se venger. Quand on est traité injustement, on a envie de se venger et de faire payer aux autres tout le mal qu'on nous a fait. Et bien, Joseph n'est pas tombé dans ce piège. Malgré sa souffrance, et je crois qu'il a souffert, et il le dira plus tard, malgré sa souffrance, il est un instrument de bénédiction pour les prisonniers et le personnel pénitentiaire. Il devient le directeur de la prison. Oh, incroyable. On a des gens parmi nous qui travaillent dans l'administration pénitentiaire, même directeur de prison. J'ai jamais vu, moi, un esclave devenir directeur de prison. C'est incroyable ce que Dieu fait ici au travers de cet homme. Au verset 23, l'Éternel était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. quelle histoire. Je vais appeler les musiciens à revenir sur l'estrade, s'il vous plaît. Cette histoire nous rappelle celle de Jésus qui n'a jamais commis la moindre faute. Il a résisté à toutes les tentations. Il a été condamné, il a été cloué sur une croix comme un brigand. Mais il est ressuscité et aujourd'hui il est au ciel, assis à la droite de Dieu. Il intercède pour toi, pour moi, pour nous, pour son Église. Il est avec nous comme il a été avec Joseph. Et lorsque l'apôtre Paul parle de toutes ces histoires dans l'Ancien Testament, il dira que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. C'est-à-dire qu'on apprenne quelque chose. Qu'on apprenne. 1 Corinthiens 10, au verset 13, il dira « Les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. » Pouvoir, relations sexuelles et l'injustice, trois tentations majeures par lesquelles sont passés Joseph. Et il en est sorti vainqueur. Il a surmonté avec l'aide du Seigneur. Pour terminer, un mot pour ceux qui ont succombé aux tentations. Je pense souvent à cette chanson de Richard Toupin, chanteur chrétien, qui dit que celui qui se relève est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Celui qui se relève est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Tout simplement parce qu'il sait ce que cela lui a coûté. Nous recevons dans nos bureaux des hommes et des femmes qui trébuchent. Et l'apôtre Jacques, qui était le frère du Seigneur, demi-frère de Jésus, dit que nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Nous recevons dans nos bureaux des hommes et des femmes qui ont trébuché, qui ont dérapé. Et lorsque nous réalisons la souffrance dans laquelle ils sont, ça nous prend. Et notre parole, c'est toujours la même, parole d'encouragement, parole de relèvement, parole pour bénir, pour dire ne reste pas dans la défaite, ne reste pas par terre, relève-toi, parce que celui qui est avec toi et qui te cherche et qui t'aime et qui t'a aimé le premier, il ne t'abandonnera pas. Le menteur voudrait te faire croire que c'est fini, que c'est terminé. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est un menteur. Et donc, ce matin, j'aimerais donner l'occasion à celui ou celle qui a passé par une phase difficile et qui a trébuché, qui est tombé. J'aimerais te donner l'occasion de te relever. Et je suis venu avec ce message. Si tu es tombé, ne reste pas par terre, ne reste pas couché. Relève-toi. On va prier et j'aimerais qu'on puisse continuer tout à l'heure avec un chant. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour l'expérience de Joseph. Savoir qu'il est possible de regarder à toi, non pas en nous-mêmes pour trouver la force, mais à toi, vers toi. Et en cet instant, nos cœurs se tournent vers toi pour puiser la force dont nous avons besoin. Merci parce que tu es un secours et merci parce que tu ne permets pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et avec la tentation, tu nous donnes aussi le moyen d'en sortir. Tu nous as donné ce matin quelques indications et je te remercie pour ta parole. Elle est la vérité. Elle nous dit ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Et je prie aussi, Seigneur, pour ceux et celles qui y ont succombé, qui sont tombés et qui sont par terre. Ce matin, j'aimerais leur dire de ta part, levez-vous, relevez-vous. Merci. Merci parce que, comme David, nous pouvons dire, j'ai péché contre toi, je le reconnais. Comme le fils prodigue, nous pouvons dire, j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne. D'ailleurs, personne n'est digne. Lui seul est digne. Et en nous pardonnant, il nous redonne notre dignité. Ce matin, alors que tu es contrit, alors que tu te repens devant Dieu, alors que tu lui demandes pardon, reçois son pardon. Reçois son pardon et relève-toi et sois confiant. Lorsque nous confessons nos péchés, dit la Bible, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alors reçois cette parole, relève-toi. Va, a-t-il dit le Seigneur à la pécheresse, va et ne pêche plus. Merci Seigneur pour ton pardon et merci de nous relever et de nous aider à marcher de progrès en progrès pour ta gloire. Nous voulons honorer ton nom et te dire merci de ce que tu fais dans nos cœurs et dans nos vies. À toi toute la louange et toute la gloire. Amen.
Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Est-ce que vous êtes d'accord si on peut se lever ensemble pour ceux qui le peuvent, juste pour lui dire, mon Jésus, je t'aime à nouveau, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton corps, j'ai envie de dire, notre être entier. Je vais encore lui dire, je t'aime.
Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me re...
On se souvient de l'alliance qu'on a fait avec notre Jésus.
Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde. Je t'aime, oh Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé en t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé sur la
Ah, il mérite nos acclamations, le Seigneur. Dans ces temps aussi où ça vient peut-être réveiller quelque chose chez vous, sachez qu'on est très heureux d'offrir aux personnes qui nous visitent à l'église un espace d'écoute et de prière. Peut-être certains thèmes qui ont été partagés ce matin font écho et vous voudriez pouvoir échanger, être écouté, prier. Dans un instant, sur ma gauche, sur votre droite, toute l'allée là va être libérée tranquillement et des personnes qui sont identifiées avec un petit badge écoute et prière sont vraiment là pour vous. Ils se sont préparés pour que vous puissiez juste vous poser avec eux. Ne manquez pas cette petite étape-là de prière, d'écoute si vous en avez le besoin. L'Église est vraiment là pour vous par cette expression-là. Donc n'hésitez pas à vous y rendre dans un instant. On vous souhaite un dimanche béni, un 14 juillet béni. Que le Seigneur renouvelle, bénisse l'Église pendant toute cette période d'été. Et on se donne rendez-vous dans les prochains jours. Bon retour à chacun.